On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Soyez les bienvenus sur France Bleu pour On se dit tout, votre émission de témoignages quotidiennes. Et aujourd'hui, nous partons à l'hôpital pour parler du quotidien des soignants. On les dit fatigués, débordés, déprimés. On leur demande d'enchaîner les actes pour faire du chiffre. Toujours plus, mais sans moyens supplémentaires. Résultat, des soignants maltraités qui, à terme, pourraient devenir maltraitants. Alors, j'exagère un tout petit peu le trait, mais c'est volontaire. Vous qui travaillez à l'hôpital, en EHPAD, si vous êtes infirmière, aide-soignant, chirurgien, peu importe, ce qui compte, c'est que vous veniez nous raconter votre quotidien, ce qui se dégrade, ce qui ne va pas, ce qui a changé en quelques années. On vous attend au 0810 055 056. Les étudiants sont également les bienvenus, car notre grand témoin raconte justement le quotidien des étudiants en médecine qui viennent faire leur premier stage. Il s'agit de Valérie Auslander, auteur du livre Omerta à l'hôpital, dont la version BD vient de sortir, sous les dessins de Sauskuld aux éditions Michalon. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Votre livre Omerta à l'hôpital, c'était votre histoire à la base, comme celle de plein d'étudiants, élèves infirmiers maltraités.
Oui, alors c'est vrai que moi j'ai commencé à écrire, à avoir ce projet de livre à partir de mon expérience personnelle d'étudiante en médecine, et je me suis dit que tous les étudiants étaient concernés, pas seulement les étudiants en médecine, mais aussi les étudiants en paramédical, donc les étudiants infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, kinés, où j'ai pu donc observer pendant mes études des étudiants qui étaient victimes de violences de la part de leur hiérarchie, des violences psychologiques, verbales, parfois physique et parfois même sexuelle. Et donc j'ai décidé de rompre cette omerta, de briser le silence et de travailler avec des spécialistes, des experts pour essayer de comprendre pourquoi il existait ces violences à l'hôpital et d'essayer de trouver des solutions pour mettre un terme à ces violences.
Eh bien, on va en parler avec vous qui travaillez ou avez travaillé à l'hôpital. C'est le sujet d'On se dit tout et c'est parti sur France Bleu.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Pression, humiliation, rentabilité, voilà quelques mots qui reviennent de plus en plus dans la bouche des personnels soignants. L'hôpital va mal, tout le monde le dit, sa gestion probablement, mais désormais tous ceux qui y travaillent et qui pourtant adorent leur métier. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se dégrade autant en quelques années? Et concrètement, qu'est-ce qui, selon vous, ne va pas à l'hôpital? 0810 055 056, c'est le numéro d'On se dit tout et on en parle aujourd'hui du quotidien des soignants. Comment accompagner et soigner correctement quand on est déjà maltraité. C'est tout le problème et ça commence dès les premiers stages des élèves infirmiers. Notre grand témoin le raconte très bien dans son livre « Omerta à l'hôpital ». Il s'agit de Valérie Auslander et Sauskuld qui illustre votre livre a vécu la même chose en tant qu'aide-soignante.
Oui, elle a fait, elle, au départ des études, même pour devenir infirmière. Et quand je l'ai rencontrée pour faire ce travail collectif, elle avait un discours qui était justement, comme si elle, finalement, c'était de sa faute, le fait qu'elle n'ait pas réussi à aller jusqu'au métier d'infirmière. Donc elle s'est arrêtée à être soignante, puis elle a travaillé 6 ans comme être soignante. Et puis en fait, à force de discussion, de discuter avec elle à ce sujet, elle a fini par comprendre justement que...
C'était pas de sa faute.
Non, qu'elle avait été victime justement du système et qu'elle avait été victime de violences psychologiques et ça avait complètement détruit sa confiance en elle au point qu'elle n'arrive pas jusqu'au bout de ses études d'infirmière et qu'elle se limite à devenir aide-soignante, alors que son objectif initial, c'était de devenir infirmière.
Ce qui est très dur, et quand on lit votre livre, et moi ça m'a même dérangé de se dire, dans un hôpital, on fait tous le même métier, c'est-à-dire soigner les gens, quel que soit d'ailleurs son poste et son rôle. Pourquoi il y a cette maltraitance? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une infirmière en chef va mal parler, maltraiter peut-être une élève aide-soignante, infirmière? Comment on en est arrivé là, en fait?
Il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a une tradition qui s'est mise en place depuis plusieurs décennies, même je ne saurais même pas compter, mais je pense que ça existe depuis très longtemps, où la hiérarchie fait que il y a un abus de pouvoir de la part de ceux qui se trouvent tout en haut de la hiérarchie et qui vont se permettre justement d'abuser de leur pouvoir, de mal parler. Ça peut être des chefs de service qui vont mal parler à des infirmières qui vont mal parler aux aides-soignantes, et toute l'échelle de la hiérarchie est touchée. Et ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, il y a évidemment les personnes qui ont été maltraitées pendant leurs études ou pendant leur profession, qui à leur tour vont devenir maltraitants, alors que ce soit conscient ou inconscient. En tout cas, parfois ça arrive et ça existe.
Et puis il y a le contexte aussi. Aujourd'hui,
contexte, évidemment, les dysfonctionnements, le management hospitalier actuel et des conditions de travail des soignants qui sont complètement dégradées, avec des soignants qui souffrent, et on le voit aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils descendent dans les rues pour faire la grève, parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen justement de se révolter. Il y a une totale perte de sens de leur métier. Ils ne peuvent plus exercer leur profession convenablement, soigner les patients convenablement. Ils manquent de moyens humains, de moyens matériels. Certaines infirmières ou aides-soignantes se retrouvent dans des services à s'occuper de 15-20 patients en étant toutes seules parfois, ce qui est ingérable, même pour elles, c'est une vraie souffrance parce qu'elles sentent qu'elles ne peuvent pas exercer et soigner et prendre en charge correctement un patient et en devenant maltraitante, parce que c'est une maltraitance ordinaire. Quand on peut pas faire une toilette quotidienne, même au lit, même avec un gant de toilette à un patient quotidiennement, ça en devient maltraitant. Il y a une perte de dignité de la personne.
On en parlera justement avec Marie-Pierre dans l'Hérault. Elle sera avec nous dans quelques instants. Elle travaille en EHPAD. Vous aussi, venez nous rejoindre. Venez nous raconter votre quotidien de soignant. Pourquoi c'est plus compliqué aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on parle de rentabilité, par exemple, à l'hôpital, où on devrait parler de soins, de bienveillance? Alors on en parle aussi, mais c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, j'ai l'impression. 0810 055 056 pour nous rejoindre.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
Avant, les hôpitaux étaient dirigés par des médecins et ça paraît logique. Aujourd'hui, il y en a encore, heureusement, mais on leur demande aussi d'être des gestionnaires, de facturer des actes de plus en plus afin d'être rentables. Un mot qui a du mal à coller avec la notion de service public de l'hôpital, et c'est le personnel soignant qui trinque en premier. Fatigue, déprime, contrainte, obligation de se taire aussi. Nous, aujourd'hui, on a décidé d'en parler, de le faire surtout avec vous, vous qui travaillez à l'hôpital, et quel que soit votre poste d'ailleurs, tout le monde est concerné à tous les étages. 0810 055 056, le quotidien du personnel soignant. C'est le sujet d'On se dit tout en compagnie de Valérie Auslander, auteur du livre Omerta à l'hôpital, illustré aux éditions Michalon. Et nous sommes avec Marie-Pierre dans l'Hérault. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour.
Vous êtes d'accord avec tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission?
Tout à fait d'accord, et je remercie France Bleu de justement, je suis des aides-soignantes, moi, de nous donner la parole, parce que c'est vrai qu'on parle de la maltraitance de la personne âgée. Moi, je travaille en EHPAD, et la maltraitance, le problème, c'est que le soignant est presque obligé de la faire, puisque on a beaucoup, beaucoup de toilettes dans la matinée à faire, et il faut que les gens soient... ou au restaurant, ou soit propre pour pouvoir aller au restaurant à 11h30, voire midi moins le quart. Donc, en commençant les toilettes à 6h30, on est obligé d'aller vite, d'installer des gens sur des fauteuils roulants, et ils attendent 11h30 le repas, et ils sont là toute la journée sur des fauteuils roulants. Alors moi, je suis désolée, pour moi, des gens qui ont 95 ans, 97 ans, voire plus, c'est de la maltraitance.
Mais ça a toujours été comme ça, Marie-Pierre, ou ça s'est dégradé en quelques années?
Ça se dégrade. Progressivement, ça se dégrade. Progressivement, ça se dégrade.
Comment vous le gérez, vous? Parce que vous aimez votre métier. On sait que quand on choisit ce métier d'être soignante, c'est un métier qu'on aime. Comment vous arrivez à gérer ce côté « j'aime mon métier, mais j'arrive pas à le faire correctement » ?
Alors moi, je l'ai géré d'une façon où c'est que j'ai changé de service et je suis allée dans un service fermé. On soigne la maladie d'Alzheimer. Donc on a un tout petit peu plus de temps. On fait pas que du soin, on fait de l'animation, on fait beaucoup plus de choses. Mmh. Donc on a une relation plus particulière avec le résident.
Valérie, ce que dit Marie-Pierre, c'est ce que vous disiez juste avant, finalement, la maltraitance des soignants, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est pas de la maltraitance physique,
oui.
C'est puis... genre, on a l'impression de mal faire son travail et donc de maltraiter les patients.
Et encore, Marie-Pierre a eu la chance de pouvoir justement faire ses toilettes quotidiennes, même si elle dit ne pas avoir suffisamment le temps, au moins elle les fait, parce qu'il y a certains EHPAD où les aides-soignantes n'ont même pas le temps de faire ses toilettes quotidiennes, donc la maltraitance est encore plus importante et voilà ce qu'elle explique quand même, c'est que sa défense à elle, ça a été un peu de fuir ces services-là. Donc il y a quand même des services pour être dans un service où elle aura une meilleure qualité de travail, ce qui s'entend complètement, ce qui veut dire que les services où on continue à fonctionner comme ça, on imagine bien que les soignants souffrent énormément.
Et tout le monde n'a pas la possibilité de bouger et de changer de service.
Tout le monde n'a pas la possibilité et on imagine bien les conséquences justement sur les patients qui est complètement déplorable.
Merci Marie-Pierre d'avoir été avec nous, d'avoir ouvert cette émission et on va continuer de vous écouter, vous qui travaillez à l'hôpital, en EHPAD, vous êtes soignant. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'avant? Concrètement, racontez-nous votre quotidien, c'est le sujet d'On se dit tout.
Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
Réduction d'effectifs, de moyens, urgence débordée, l'hôpital va mal et tout le monde le dit. Mais comment on fait pour soigner dans de bonnes conditions quand déjà les soignants vont mal? C'est une équation compliquée. Aujourd'hui, c'est vous, les soignants, vous qui avez la parole sur France Bleu au 0810 055 056 pour nous raconter votre quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous pour qu'on comprenne mieux votre fatigue, votre exaspération, vos craintes, votre colère aussi. Qu'est-ce qui cloche à l'hôpital? C'est le sujet d'On se dit tout en compagnie de Valérie Auslander, auteur du livre Omerta à l'hôpital, dont la version BD vient de sortir aux éditions Michalon. Et nous sommes en région parisienne avec Daniel. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Vous êtes aide-soignant en hôpital public, en arrêt en ce moment. C'est un rapport, cet arrêt maladie? Avec
alors,
ce dont on parle.
Cet arrêt maladie, pour revenir à ce que vous disiez, je suis aide-soignant. Non, je ne suis pas aide-soignant, mais je préfère taire ma profession.
Ah d'accord, pas de problème.
Pour raison des écritions, enfin voilà. Donc je suis en fait soignant depuis un moment à l'hôpital, comme je disais. Ça fait 12 ans, je travaille sur Paris. Et actuellement, je suis en arrêt parce que j'ai fait une grosse dépression. Ça fait maintenant, on est au quatrième mois de mon arrêt. Répercuté par beaucoup de soucis au niveau du travail et entre autres par la surcharge de travail, le stress, l'angoisse, enfin voilà quoi. J'ai commencé à travailler d'abord dans le service de gérontologie, avec les patients, on avait beaucoup de soins à effectuer, on n'était pas en effectif, j'étais délégué en comité de bientraitance-maltraitance, j'ai essayé de soulever les problèmes et tout, mais la direction n'entend pas, la direction n'écoute pas, on doit soigner les patients, mais nous on n'est pas soignés, on n'est pas écoutés suffisamment. Et donc du coup, je pense que c'est tout ça qui a conduit actuellement, je suis en dépression et honnêtement, j'ai plus envie de reprendre le travail.
C'est-à-dire que le côté technique du soin est fait, Daniel, c'est-à-dire que les patients sont soignés, mais on n'a plus le temps de prendre du temps, c'est ça?
Voilà, on est toujours les plus mal chaussés et voilà, la direction veut pas entendre la souffrance des soignants, elle veut pas entendre. Pourtant, maintes et maintes fois, j'ai essayé d'attirer leur attention avec mes collègues. Alors souvent, j'en parlais, on essayait de les solliciter, mais non, rien à faire. Enfin, ils ont un management bien précis, surtout dans les hôpitaux sur Paris, ils ont un management bien précis. Ils doivent faire fonctionner, ils doivent faire tourner la boutique, entre guillemets, et voilà. Et on n'a pas de temps pour écouter les soignants ni quoi que ce soit.
Valérie, vous vouliez poser une question peut-être à Daniel?
Non, juste rebondir sur ce qu'il disait. C'est vrai que c'est absolument pas logique de la part de la direction qui est soumise elle-même au gouvernement, parce que finalement, quand on se retrouve avec des soignants en souffrance, même si on a un objectif de rentabilité, même si la rentabilité n'a pas lieu d'être à l'hôpital, mais c'est ce qui se passe actuellement, si on a cet objectif-là de rentabilité, en mettant des soignants et en les poussant à bout, ils vont se mettre en arrêt comme Daniel, et au final, on va être encore plus en sous-effectif, et finalement, tous les soignants vont être en souffrance, et ça va encore plus dégrader le soin, et on va pas être rentable au final.
Et est-ce que, Daniel, vous avez parfois des étudiants qui viennent, ou bon, alors là, vous êtes en arrêt, certes, mais parce que la question se pose, c'est aussi tout le thème du livre de notre grand témoin, de cette souffrance et de cette maltraitance des étudiants. Oui. Quand on est un soignant comme vous, déjà débordé, fatigué, sous la contrainte, est-ce qu'on a du temps pour les étudiants?
Alors là, c'est la bonne question. Je suis encore référent des élèves. Voilà, j'encadre, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'encadrer des élèves, que ce soit BEP, que ce soit élève infirmier, enfin j'en encadre un paquet. Et c'est vrai, le personnel à majorité, comme ils sont déjà débordés, ils n'en peuvent plus, ils sont déjà épuisés. Et ben souvent, c'est pas de leur faute, mais ils envoient à la balançoire les élèves. Enfin voilà, ils les prennent pas en charge, débrouillez-vous. Les élèves, entre autres, sont considérés comme de la main d'œuvre et on met tout le monde dans le même panier et allez-y, vous avez tant de soins à faire, allons-y, terminé.
De la main d'œuvre, c'est terrible.
Je m'oppose à ça parce que j'étais souvent en conflit avec mes collègues parce que je disais que non, ce sont des élèves, ils ont besoin d'apprendre et ils sont pas là en tant que main d'œuvre, ils sont là en tant qu'élèves pour apprendre, et non livrer à eux-mêmes, allez débrouillez-vous, non. Mais souvent, les élèves, c'est comme ça, et ben quand ils arrivent, et ils sortent de leur stage, et ben ils connaissent pas suffisamment de...
Et ça, on le voit et on le lit dans votre livre, hein, Valérie.
Oui, et ça, c'est au mieux. Au mieux, ils sont de la main-d'œuvre pour pallier le manque de personnel qui n'est pas là, mais ça, c'est au mieux de ce qui se passe dans les services. Au pire, ils peuvent être maltraités parce que, justement, les soignants qui souffrent finissent parfois par perdre patience, être agressifs, que ce soit envers les étudiants ou envers même parfois des patients. Alors évidemment, je ne généralise pas, mais ça peut arriver. Voilà, après, c'est sûr que on peut pas demander à un professionnel de santé de former des étudiants alors qu'il n'a même pas le temps de s'occuper de ses patients. Comment voulez-vous qu'on lui impose de former des étudiants? En termes de temps, c'est impossible.
Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous sur France Bleu. On continue de vous écouter. Le quotidien des soignants, c'est le sujet dont se dit tout.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Des semaines à 50 heures, des actes qu'il faut enchaîner car qui rapportent, des absences pas remplacées, de l'administratif en plus des soins, des RTT impossibles à prendre, de la fatigue, de la déprime, de la maltraitance. Voilà le quotidien de certains soignants. Alors je dis bien certains, il n'est pas question de faire des généralités, mais on sent bien que faute de bras, ayant fait rentrer le mot rentabilité à l'hôpital, il y a quelque chose qui ne va pas. Racontez-nous comment vous avez vu les conditions de travail à l'hôpital se dégrader, ce qu'on vous dit quand vous essayez d'alerter et vos solutions aussi pour que ça change. 0810 055 056, le quotidien des soignants, c'est le sujet dont se dit tout, avec aujourd'hui Valérie Auslander, auteure d'Omerta à l'hôpital, dont la version illustrée vient de sortir chez Michalon, et nous sommes en Charente avec Céline. Bonjour Céline.
Bonjour.
Vous êtes aide-soignante à domicile aujourd'hui, vous avez démissionné, vous avez quitté l'hôpital.
Exactement, enfin j'ai pas travaillé en hôpital d'ailleurs, je tiens à remercier France Bleu d'aborder ce sujet. Et je tenais à dire aussi que je me reconnais énormément dans le livre de Valérie, puisque j'ai fait des études d'infirmière que je n'ai pas pu terminer, j'ai arrêté en fin de deuxième année. Suite justement au harcèlement moral des formateurs qui m'ont dégoûté plus ou moins de la formation. Donc j'aimerais bien lire ce livre.
Ah bah là vous allez vraiment vous reconnaître, ça va être un peu dur peut-être Céline. Quand vous dites j'ai été harcelée, c'était quoi concrètement? Vous avez un exemple qui vous revient?
Pas d'exemple particulier, mais à me rabaisser, oui, nous rabaisser.
C'est une atmosphère générale.
Parce qu'il y a beaucoup de demandes aussi, donc forcément, ils éliminent un maximum d'élèves. Et oui, c'était général. Après, moi, au niveau des stages en hôpitaux, ça s'est très bien passé, hein, j'ai eu aucun souci. Mais c'est que certains formateurs, hein, c'est pas tous, hein, bien sûr. Hein. Mais oui, c'est vrai que c'est démoralisant, quoi.
Et c'est pour ça que certains abandonnent aussi, Valérie, se disent finalement je suis pas fait pour ça. Alors que si, il y a cette envie, cette compétence qui est là, mais on leur fait penser que peut-être il faudrait changer de voie.
Bah, on prétend à une incompétence parfois de certaines compétences qu'on est censé leur transmettre, et à force de leur dire quotidiennement qu'ils ne sont que des bons à rien, des boulets, qu'ils ne savent pas faire et qui de toute façon ils ont rien à faire dans ce milieu, ils finissent par croire ce qu'on leur dit et puis ils finissent par baisser les bras et voilà, et à force de répéter à quelqu'un justement tout le temps qu'il n'est pas fait pour ce métier, il finit par être convaincu.
Est-ce que c'est plus facile quand on est à domicile, Céline, ou est-ce que finalement il y a d'autres difficultés qu'on ignore peut-être ?
Eh ben alors finalement, voilà, moi du coup, après avoir arrêté ma formation d'infirmière, donc je suis quand même aide-soignante puisque j'ai arrêté en fin de deuxième année, donc je me suis lancée dans le domicile justement pour voir la différence quand même avec les hôpitaux. Et il s'avère que non, c'est pas plus facile du tout. Sachant que, enfin moi dernièrement, on en est venu à être chronométré dans le sens où si on avait une heure d'intervention, on ne doit pas faire une heure deux ou une heure trois. Donc c'est très difficile. Moi j'expliquais au bureau que je suis désolée, mais si au moment de partir j'ai une personne qui a besoin d'aller aux toilettes, je vais pas le mettre sur les WC et le laisser comme ça, et le récupérer comme ça le soir, quoi. Pour moi c'est pas possible.
Et puis souvent vous êtes parfois la seule personne qu'elle peut voir de la journée, c'est un moment important.
Exactement.
Aussi.
C'est ça aussi. Donc faut savoir qu'on intervient beaucoup auprès de personnes âgées. Donc ces personnes, elles font le choix de rester à domicile, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc on est là normalement au mieux pour les aider au maximum, pour qu'elles gardent un maximum d'autonomie. Et on en arrive à la fin à ce que on est obligé, entre guillemets, hein, de rendre des gens plus ou moins dépendants des intervenants, et ça je l'admets pas du tout, de faire perdre leur autonomie. Moi j'ai des collègues, au lieu de laisser marcher les personnes à leur rythme, bien sûr, parce qu'à un certain âge on marche pas comme à 20 ans, on est bien d'accord, mes collègues prennent les fauteuils roulants.
Mais tout ça c'est lié, on voit bien, puisque vous êtes chronométré, puisque les plannings sont serrés. Et encore une fois, cette maltraitance, elle n'est pas due aux soignants, elle est due au système des soignants. On l'entend bien, Céline. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on continue de faire le tour de la question, même si on n'aurait pas assez d'une heure d'émission. Le quotidien des soignants, c'est le sujet dont on se dit tout et on vous attend maintenant.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
De plus en plus de soignants disent qu'ils ont l'impression de mal faire leur travail parce qu'on fait les soins, oui, les soins techniques, mais on n'a plus le temps pour papoter avec un patient, pour le rassurer par exemple. Et ça fait pourtant partie des moments importants pour tout soignant qui a choisi ce métier souvent pour être utile. Aujourd'hui dans les hôpitaux, on parle d'actes facturés, de rentabilité, de comptabilité au détriment de la psychologie, de la bienveillance. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Quel est l'avenir de l'hôpital et surtout de ses soignants dans ces conditions? On vous attend pour en parler encore un quart d'heure au 0810 055 056 en compagnie de Valérie Auslander qui vient de sortir la version BD de son livre Omerta à l'hôpital avec des illustrations de Soskuld chez Michalon. Et nous sommes en Provence avec Françoise. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour.
Depuis peu à la retraite, vous étiez cadre soignant, 45 ans de métier.
Tout à fait, 45 ans de métier dans la fonction publique. Et je viens de la quitter, là, au mois de janvier.
Donc, dans quel état vous l'avez quittée?
Alors, catastrophique, on va dire.
Ouais.
À tous les points de vue. Alors, le point de vue soignant, parce qu'il ne faut pas oublier que les soignants, j'englobe l'ensemble. Les médecins, les kinés, les infirmières, les aides-soignantes, l'ensemble. Nous sommes dans un état, on va dire, on baisse les bras. Le budget de l'hôpital est tellement restreint, c'est terrible. Les infirmières, nous sommes obligés de les rappeler sur des jours de repos, de congés. Nous devons assurer la continuité des soins, donc nous sommes obligés de les rappeler. Et c'est pas toujours de gaieté de cœur. Et ce qui ressort du terrain, ce cadre, elle m'a encore appelé, on en a marre. Et je vous assure, c'est toujours difficile pour nous de le faire. Ça, c'est vraiment catastrophique. Qui en pâtit aussi, ce sont les patients. Parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'elles étaient chronométrées, tout à fait, elles sont chronométrées. On est obligé de dire, voilà, vous avez tant de patients, tant de toilettes, et eh bien c'est de la malveillance. Alors on parle beaucoup de bienveillance, mais là c'est de la malveillance, de la maltraitance, je dirais même plus. et on est complètement désarçonné, voilà. Et je finis, mais je finis tristement parce que j'ai adoré mon métier. Je suis d'ailleurs spécialisée. J'ai eu plusieurs blocs opératoires sous mon commandement, si on peut dire. Et je suis vraiment triste parce que je sais que l'hôpital va partir en déclin et au détriment peut-être du privé. Et c'est dur à entendre.
On se la pose beaucoup cette question, Valérie, de savoir si l'hôpital tel qu'il existe aujourd'hui sera l'hôpital de demain.
On est arrivé à un point de rupture aujourd'hui avec des conditions de travail qui sont plus acceptables. Et si le gouvernement aujourd'hui n'entend pas les besoins réels des soignants sur le terrain, ça va. Voilà, c'est vraiment un point de rupture et il faut mettre en place des actions et notamment la première demande des professionnels de santé, c'est de remettre des effectifs dans les services. Beaucoup de directeurs d'hôpitaux disent qu'il n'y a pas eu de restrictions budgétaires, mais en tout cas, il y a une mauvaise répartition des budgets. Et il faut répartir les budgets de telle sorte à ce qu'il y ait suffisamment d'effectifs dans les services où il y en a besoin.
Vous, en tant que cadre soignant, Françoise, vous aviez un budget à respecter ou c'était encore au-dessus de vous, ça, tout ce qui était financier ?
Alors, évidemment, c'est au-dessus de nous, mais quand il nous manque du personnel et qu'on demande du personnel, je rejoins Valérie, on dit, voilà, on peut pas fonctionner si on n'a pas tant de personnes. Eh bien, on nous dit, ben si, essayez de faire, faites avec ce que vous avez. Alors, on est obligé de trouver une solution. Et après, la solution perdure, parce qu'en fait, on fait faire des économies.
Mais oui, on vous dit, voyez bien que ça marchait. Oui, bien sûr.
Sauf qu'on se retrouve
sur tout le monde.
On se retrouve avec des soignants qui souffrent, des soignants qui se mettent en arrêt de travail, et l'exemple de Françoise, qui était cadre de santé et qui, justement, devait rappeler des soignants qui étaient de repos pour les faire venir. Mais ces soignants qui étaient de repos et qui vont revenir tous les week-ends, ils vont finir par se mettre en arrêt, eux aussi.
Mmh. Merci, Françoise, d'être venue témoigner. C'est un peu triste de vous entendre parce que je sens quand même cette passion et cet amour que vous avez pour votre métier. Vous dites, hein, c'est un petit peu dur de finir comme ça, mais votre témoignage est très important. Merci encore, Françoise. Et la dernière partie de On se dit tout arrive dans un instant. On parle du quotidien des soignants aujourd'hui.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Le quotidien des soignants, c'est le sujet d'On se dit tout avec Valérie Oslender qui est notre grand témoin, auteur de Omerta à l'hôpital, et avec Roberte depuis Belfort. Bonjour Roberte.
Bonjour.
On va essayer de terminer sur une note positive parce que c'est vrai que bah voilà, c'est normal, hein, c'est le sujet aussi qui veut ça. Vous êtes en retraite, vous avez été auxiliaire péricultrice et formatrice, et vous avez fait très attention en tant que formatrice de pratiquer la bienveillance, c'est comme ça que vous le dites.
Oui, voilà, j'ai toujours été sensible à la qualité des soins par le toucher. Donc oui, il y avait toutes ces questions, comment ne pas être maltraitante, comment sortir de l'engrenage, comment pratiquer la communication douce, la bienveillance. Donc avec une collègue, le service formation continue, puis avec notre cadre, on a mis en place cette formation toucher-massage pour les soignants, les étudiants. Donc ces touchers-massages, ils se pratiquent en une minute, habillés, pour les patients qui sont assis dans un fauteuil ou pendant la toilette, etc. Donc pour nous, c'est un plus, un bien-être, une philosophie de soins. Et avec ma collègue, on le considère vraiment comme un soin à part entière. Et chaque hôpital devrait mettre ses petites formations de 2 jours qui se pratiquent vraiment facilement. La deuxième partie de la formation, c'est aussi pour les soignants. Des exercices de relaxation, de lâcher prise, très rapide, pour elles-mêmes, quand la pression est trop
forte. Ça permet de relâcher un petit peu la pression. Ça montre, Valérie, qu'il y a des possibilités, même dans des services où ça va vite, même où il y a de la pression. On peut trouver des petites respirations comme ça de temps en temps.
Oui, il y a des actions qui sont mises en place individuellement dans des services, dans des hôpitaux. C'est vrai que Roberte nous montre un exemple et parce que elle est volontaire, parce qu'elle a envie justement, elle est dans cette philosophie-là. Et malheureusement, tout le monde n'est pas dans cette philosophie-là. Tout le monde n'est pas naturellement, à donner comme ça de son temps, alors que on n'a pas forcément le temps de s'occuper des patients. Mais c'est vrai que pour justement essayer de, d'homogénéiser ce type d'action, il faudrait, dès la formation initiale, former à l'empathie, former aux questions relatives aux violences institutionnelles, justement pour essayer de lutter contre ça. Et évidemment, toutes les actions sont bonnes à prendre, que ce soit des actions de voilà de méditation, de sophrologie, de massage, mettre en place aussi dans les services des groupes de parole, que ce soit pour les soignants, mais aussi pour les étudiants, pour essayer de mettre des mots sur les dysfonctionnements et d'essayer de trouver des solutions collectivement pour améliorer la prise en charge des patients, même si on est en nombre réduit. Mais évidemment, l'exemple de Robert est un très bel exemple pour justement améliorer la qualité au travail.
Et pour fermer l'émission, je trouve ça pas mal aussi.
Et voilà, ouais. un peu plus de gaieté.
Merci beaucoup Robert d'avoir été avec nous sur France Bleu. Merci pour tous vos témoignages. À réécouter bien sûr en podcast sur notre site francebleu.fr. Et merci à notre grand témoin, Valérie Oslender. Avec, alors il y a deux livres. Hein. Pour ceux qui préfèrent la version écrite, il y a Omerta, l'hôpital, ça c'était, voilà. qui est sorti l'an dernier. Et puis là, il y a la version illustrée avec Soskuld,
qui
s'est reconnu, voilà, voilà, vous êtes reconnus mutuellement, elle a vécu la même chose en tant qu'étudiante aide-soignante, et c'est pas simple, hein, je préfère le dire, c'est un petit peu violent, on se dit, waouh, c'est quand même compliqué ce qui se passe parfois
mais
à l'hôpital.
Mais c'est important de comprendre ce qui se passe, donc je pense que c'est important de le lire justement pour comprendre ce qui se passe, comprendre le phénomène et les conséquences.
Merci beaucoup Valérie Oslender, le livre c'est chez Michalon, et nous on se retrouve demain. Demain, nous serons le 1er mai. Et demain, nous serons là avec vous qui peut-être aussi travaillez les jours fériés, les week-ends. On pense notamment au milieu hospitalier, par exemple. Je travaille quand les autres se reposent. Ce sera le sujet d'On se dit tout demain.